je ne sais pas, peut-être aussi la joie aussi à gérer. Ça peut déborder aussi. Autrefois, j'étais très prudent quand je vois, je dis, si je dis quelque chose, on ne sait pas. Bon, maintenant, je dépasse la peur. Donc, on a besoin de dépasser la peur, la colère, la tristesse et la joie, et beaucoup d'autres choses. Mais je vais vous parler dans la lumière de yoga. Est-ce que vous m'entendez, ceux qui sont au fond? Est-ce que je parle assez fort? C'est bon? Faut baisser. Faut pas baisser. Ok. On est tous concernés en fait, donc vous et moi, donc il vaut mieux qu'on réfléchisse ensemble. On est partant, vous êtes partant, et que c'est pas un monologue, que j'aimerais que ça soit dialogue, échange, pour qu'on puisse mettre tout nos intelligences pour pouvoir éclaircir. Mais je vous donnerai le point de vue indien sur la question. Et comme c'est tellement important, parce que je voyais tellement des gens souffrir, malgré qu'ils ont de quoi nourrir, malgré qu'ils sont bien vêtus, qu'ils ont des maisons, des conditions nécessaires pour normalement être heureux, mais je le retrouve vraiment malheureux, sans pouvoir profiter de toutes les richesses que la nature les offre. Vous comprenez, c'est pour ça. Et quelquefois, même une personne qui n'est pas bien, qui souffre, risque de détruire la planète. On fait des courses qui ne sont pas nécessaires, simplement parce qu'on n'est pas bien dedans, et on va faire des achats qui sont souvent inutiles. C'est-à-dire, quand il y a un problème dedans, on cherche à régler par des moyens extérieurs. On fait l'envers aussi, hein. Quand on a des problèmes extérieurs, on cherche à régler par des moyens intérieurs. Ça, c'est un peu moins fréquent chez vous, je crois. Ici, quand ça ne va pas, qu'est-ce qu'on fait? On prie. Et chez vous, vous travaillez. Pardon?
Moi, je suis un médecin, moi, je suis un psychanalyste ou un psychologue.
Oui, vous faites quelque chose. Donc, c'est quelquefois les moyens ne sont pas adaptés par rapport aux problèmes. Quand on a un problème dedans, on va chercher à régler à l'extérieur. Quand on a un problème à l'extérieur, on cherche à régler à l'intérieur. Donc en fait, on a besoin de clarté sur ça. Les aides que moi j'ai reçues, premièrement, pour continuer par rapport à ce, tout ce que nous avons déjà regardé. Et le premier pensée, c'est quand même Samkhya. Donne une opinion que je trouve assez pertinent. Et avant de régler des problèmes, des soucis, mais on va chercher où se trouvent les soucis. Qui souffre, où j'ai mal, je suis en colère par exemple. Je ressens la colère et j'ai la colère pour détruire l'univers tout entier. Imagine ça. Mais cette colère me ronge, qui me rend malade. Et dans ces cas, on peut certainement interroger, au lieu de régler peut-être le chien du voisin qui me met dans cet état, ou d'autres, mais on va interroger vraiment qui souffre, où il souffre. Pour ça, on a besoin de cette carte de l'existence. Carte de l'existence, c'est le 25 principes selon Samkhya. C'est-à-dire, très simple, il y a 5 sens, il y a 5 sensations, il y a 5 aliments et 5 organes d'action. Et après, on a la pensée, l'intellect, l'ego, la conscience et l'énergie. C'est 25. Et sur le 25, et où on trouve cette souffrance? C'est ça. Donc la première réponse que moi j'ai trouvée pour pouvoir régler ça, ça vient de Samkhya. J'étais très rapide peut-être pour ceux qui ne sont pas assez familiarisés avec les 25 principes. Vous voulez que je répète? Écrire le Samkhya. Kariga, ça veut dire explication. Samkhya, c'est le texte. J'ai mal, par exemple, j'ai mal au pied. J'ai mal au pied, c'est quelque chose très simple, véritable, et je le ressens comme une sensation sensorielle. Donc, dans les 5 sens, on a odorat, goût, vision, toucher et l'ouïe. Donc, là, s'il y a cette douleur, quelque part, c'est très simple, objectif, mais nous, souvent, quand on a mal, on va ajouter d'autres douleurs sur la douleur. Et souvent, par des études scientifiques, le premier douleur, par exemple, je suis piqué par une guêpe, ça dure que deux minutes. Mais le reste des douleurs, ça vient du cerveau. Et quand on regarde les souffrances que nous avons, on peut trouver, il y a 3 catégories. On parlait des émotions. Hein. Les émotions, de quoi qu'il soit les couleurs de l'émotion, ça peut être colère ou tristesse ou la joie ou la peur, peu importe. Et ça devient une perturbation en fonction de l'intensité. Donc quand on regarde les différentes formes de souffrance, on a 3 catégories. Il y a des souffrances qui viennent de l'extérieur, indépendant de nous. Il y a les souffrances qui sont créées par nous-mêmes. Il y a des souffrances qui viennent de raisons, on ne sait pas la source, donc inconnues. On appelle Ati Deviga, ça veut dire on ne sait pas d'où. Peut-être c'est les dieux qui ont décidé. Une personne qui naît, un enfant qui naît handicapé ou n'importe quel événement. Peut-être vous avez un accident et on ne sait pas d'où vient. Donc il y a trois sources. Mais quand on compare le pourcentage, la souffrance générée par nous-mêmes, c'est 99%. Et c'est pour ça que cette interrogation devient intéressante, très intéressante, parce qu'on peut séparer les choses. Et on peut identifier qu'il y a des principes à l'intérieur, sur les 25, qui dysfonctionnent, et c'est ça qui génère la plupart de notre souffrance. Une grande partie de notre souffrance est générée par avidya. Ignorance. C'est-à-dire, on ne voit pas clair. Une grande partie de la souffrance est générée par nous-mêmes. Donc, ça vaut le coup de s'investir sur soi, sur la connaissance de soi. Parce qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas contrôler. Par exemple, la terre peut trembler. Peut-être une météore qui va tomber. Un virus qui va traîner. Hein? Bon, tout ça, c'est, on ne peut pas contrôler. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'on ne peut pas contrôler. Mais les choses qu'on peut contrôler, agir, produit beaucoup plus de souffrance que les choses qu'on ne peut pas contrôler. Et donc c'est intéressant de démarrer cette interrogation pour savoir comment on génère les souffrances. C'est-à-dire quelqu'un qui dit ça va pas, ça va pas, ça va pas, c'est normal que ça devient ça va pas. Les pensées que nous entretenons à l'intérieur, si on n'arrive pas à imposer certaines qualités, contrôle des qualités, on va avoir des soucis. Donc ce livre détaille bien les dysfonctionnements de la pensée. Mais les pensées sont basées sur la mémoire. Donc si cette faculté ne fonctionne pas bien, la pensée ne fonctionne pas bien. L'intellect, vraiment, ça fonctionne que parce que s'il y a la mémoire. Donc, imagine si la mémoire ne fonctionne pas bien, l'intellect ne fonctionne pas bien. L'intellect, c'est la faculté qui prend des décisions. En fait, les chauffeurs, véritables chauffeurs qui guident notre vie intérieure et aussi extérieure, c'est Bouddhi, c'est l'intellect. Donc, tout ce que nous allons parler, c'est comment aider notre intellect pour qu'il règle lui-même tous les autres problèmes. Parce que l'ego, c'est lui qui dit, c'est une fonction aussi, ça ne va pas. C'est quelqu'un qui dit, je suis bien ou je suis en colère, et toutes les masques que nous portons, ça c'est l'ego. Mais qui lui donne, ça c'est l'intellect. Donc, si nous cherchons une stabilité, c'est ça, stabilité émotionnelle, intérieure, on a besoin de vivre sans masque. Vivre sans ego. Laisser tomber l'ego. Et comment on peut le faire? Mais pour ça, déjà, comprendre vraiment tout ce que je viens de dire. C'est-à-dire, on ne peut pas renoncer l'ego sans avoir compris la non-existence de l'ego. Sans avoir compris que l'ego est constitué par simple imagination. C'est l'œil de cyclone. Il n'y a rien, mais pourtant on le voit. Quand le tourbillon d'eau, il n'y a que de l'eau, mais quand même on trouve qu'il y a un point. Ainsi que chaque individu, il se sent, voilà, je suis là, moi, je suis là, ici, et j'ai des expériences, j'ai des pensées, j'ai des émotions. Donc, toutes les émotions, toutes les pensées, toutes mes expériences, tout ce que je fais, tout ce que je pense, et mon passé, mon avenir, mon présent, tout se converge pour la construction de cette identité, moi-je. Ça veut dire, ça suffit de l'enlever petit à petit, toutes les composants, à la fin, c'est comme les oignons, quoi. Donc vous épluchez, à la fin, il n'y a pas d'oignon. Il n'y a que des épluchures. Vivre sans ego, c'était toujours l'enseignement de tous les grands maîtres. Bouddha, il a enseigné ça. Parce qu'il a compris la souffrance, ça vient de l'ego, donc il a dit débarrasser l'ego. Effacer l'ego. Il a donné la recette. Pourtant, peut-être il y a des gens qui l'appliquent, mais on ne le trouve pas beaucoup. Hein. Le défi, c'est ça. Est-ce que je cherche à sortir de toutes les émotions et devenir zen, ou je profite des émotions? Ça me donne l'impression d'être vivant. C'est la question, c'est la gestion après. Seulement. Qu'est-ce que vous choisirez? Qu'est-ce que vous choisirez? Prononcer toutes les émotions ou bien vivre des émotions? Mais si vous avez choisi de vivre, après, à gérer. Les hauts et du bas. Si vous choisissez le plat, dans ce cas, choisissez l'effacement de l'ego. Allez vous retirer dans un espace où absolument il n'y a aucun aliment, mais quelque part on cherche ça tout le monde, et aucun aliment qui peut nous mettre hors de nous. On fait des murs, on met des caméras, on chasse tous les éléments qui peuvent nous perturber, on a des firewalls. Où on va à fond dans des dimensions, mais en mettant des gants, hein, bien sûr. Comment? Et colère. Et souvent, on a l'impression que c'est destructeur. Mais en fait, non. C'est ça que je voulais faire avec vous. Et je sais que la première option, ça ne s'adresse pas vraiment à ceux qui sont pleinement dans la vie. Parce que on aime bien des émotions. Il y a toutes sortes de émotions. On aime bien vivre des choses. Mais après, comment vivre sans souffrir? Donc d'abord, colère. Souvent, je prends cet exemple. Le feu, dans le foyer, ça chauffe la maison. Mais partout ailleurs, c'est l'incendie. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire, si vous mettez la colère dans le bon endroit, dans ces cas, ça va aider. Ça va aider à vivre. Mais on n'a pas eu cette éducation. Chaque fois qu'on était enfant, on se mettait en colère, Qu'est-ce qu'on nous a dit nos parents? Vous rappelez? Vous rappelez? J'ai entendu plein de fois en France. Si tu continues, je t'enferme dans la chambre. Tu vas au coucher. On te met au lit. Fermé. C'est exactement pareil, la société. Quelqu'un qui souffre beaucoup, il n'arrive pas à gérer ses colères, il fait mal à quelqu'un. Prison. En fait, on ne donne pas aucun outil pour gérer notre émotion. Donc, il y a deux façons de gérer. Pas seulement les colères, mais toutes les émotions, des excès. Première solution, premier remède, c'est pratique de posture, Hatha Yoga. Pratique posturale. Je vous demande de le prendre ça sans questionner et le mettre en application pour voir le résultat. Parce que je ne sais pas dire, je ne sais pas comment je vais expliquer les liens entre les postures et la gestion de nos émotions. Je ne sais pas. J'ai cherché dans des bouquins et dit, bon, quand vous mettez en posture de chandelle, ça va toucher le thyroïde, ou quand vous mettez d'autres postures, quand vous pratiquez le Nauli Kriya, ça touche le système nerveux, système endocrinal, ou quand vous mettez en posture la tête, ça touche le pituitaire, le pinéal, etc., etc. Donc, il y a des paroles comme ça, vous pouvez trouver dans les livres, mais si vous pratiquez les postures, toutes les émotions, vous pouvez gérer, mais d'une façon extraordinaire, c'est-à-dire vous pouvez sourire derrière quand vous mettez un visage colérique. Vous pouvez être en colère sans être en colère. Quelquefois, c'est intéressant, certaines situations, c'est bien de se mettre, montrer la colère et sans se faire du mal.
C'est la posture de l'observateur. L'observateur du moi qui souffre.
Quand vous observez la colère disparaît. Mais ce n'est pas ça que vous voulez. Vous voulez vivre les émotions, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu disais? Tu voulais dire quelque chose?
J'ai eu une idée.
Si ça revient, tu me diras. Deuxième, donc le premier idée c'est yoga, posture, hein? Je dis bien posture, ça c'est testé dans ma vie, donc je vous affirme, les postures vous aident à gérer votre émotion d'une façon véritable, parce qu'on rentre à l'intérieur du corps, dans la chimie du corps. Deuxième méthode, c'est Ayurveda. Quelqu'un qui a un peu trop de feu va avoir des complications pour gérer leurs émotions. Les bulles, un peu trop de feu dedans. Donc pour ça, allez voir un médecin ayurvédique. Commencez par une très bonne purge, sudation. des massages, des nettoyages des corps tout entiers. Là, vous allez avoir une meilleure capacité de gérer les émotions. Si vous gardez des déchets dans le corps, pour le psychisme, c'est difficile de gérer les émotions. On ne peut pas espérer quelqu'un qui est constipé de se comporter correctement émotionnellement. Quelqu'un qui a des déchets dans son corps, n'importe où, il est pratiquement pas possible de garder émotionnellement stable. Ce deuxième chemin, c'est l'Ayurveda. 3. Connaissance de soi. Là, c'est, quand je parlais de yoga, c'est, je parlais vraiment des postures. Postures, véritablement postures. Des flexions avant, flexions arrière, flexions latérales, les torsions, inversions. Et des postures d'équilibre. Pranayama, c'est beaucoup plus subtil, son action. Donc ceux qui sont vraiment dans beaucoup d'agitation intérieure émotionnelle, pour eux, il vaut mieux passer par les postures et après entrer dans la pratique de pranayama. Parce que le pranayama peut aller très très loin, mais si on n'a pas développé cette finesse d'observation, qu'on commence à beaucoup manier le pranayama sans savoir travailler les postures, ça peut créer des complications.
De quel ordre?
Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ici parmi vous pratique régulièrement avec intensité le pranayama? Si vous faites quelques nadisodana comme on fait là à la fin de pratique posturale, 5 minutes, 10 minutes, c'est pas ça que je parle. 1 heure, 2 heures, 3 heures, tous les jours. Est-ce que quelqu'un pratique ici le pranayama? Mais c'est rien, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 16 heures de pranayama. C'est pour ça que souvent les yogis, ils ont même un support là pour pouvoir... Vous avez vu dans des images au moins, on appelle un yoga dand. C'est un support pour pouvoir pratiquer très longtemps. Donc, le prana, c'est, je vous avais parlé un peu, c'est une énergie cosmique. Si vous voulez savoir un petit peu la puissance de prana, ça suffit d'essayer d'arrêter. Essayez d'arrêter, vous allez voir qui est plus puissant, si c'est le prana ou c'est vous. Avec des longues années d'entraînement, les plongeurs apnée, ils réussissent de rester très longtemps. Et quand on dépasse certains, il y a à un moment donné, il y a des convulsions qui se démarrent. Et après, si vous dépassez après, ça s'arrête. Seulement après que ça devient extrêmement dangereux. On perd conscience et on meurt. Donc, c'est. On meurt, mais on ne meurt pas, mais on quitte le corps. Donc, le pranayama, ça c'est une autre discipline. Donc, j'ai un livre ici, donc je parlais beaucoup de cette possibilité. Cette possibilité, c'est-à-dire cette énergie cosmique qui fait tourner la Terre, qui fait briller les étoiles, aussi fait fonctionner mon cœur et mes cellules qui gardent tous mes atomes ensemble, qui me permet de parler, de vivre. Tout ça, cette énergie, il peut quitter de ce corps et revenir. On fait ça tout le temps. J'inspire, j'expire, donc il y a ce mouvement perpétuel. Mais quelquefois, il quitte, mais il ne revient pas. Et cette énergie, une fois qu'on maîtrise, on peut fabriquer un corps pranique. Un corps pranique, c'est le corps que vous avez pendant le rêve. Vous avez un corps subtil. Ce corps est capable de faire des choses qu'on n'est pas capable de faire avec ce corps. Ce corps pranique est éternel. Avec ce corps, le yogi, pendant la vie, yogi réalisé, on appelle des Jivan Mukta, il vit dans ce corps, un corps pranique. Donc tout ce que j'ai dit, c'est ultra mystique. Donc laissez comme ça pour une réponse à cette question. Ce corps pranique a des capacités qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire voir des choses qui sont loin. Et toutes les pouvoirs psychiques que nous connaissons, extrasensoriels, perception extrasensorielle ou beaucoup d'autres capacités, beaucoup d'autres choses qu'on peut expérimenter avec ça. Notre capacité intellectuelle est différente avec ce corps-là. Et on peut voir envisager certaines choses, des miracles, on peut envisager ça, marcher sur l'eau. Et entrer dans la réalité des autres et le modifier. Vous comprenez? C'est-à-dire chacun avec son psychisme fabrique un monde et ils sont dedans. Imagine que vous voyez l'humanité, il y a à peu près 7 milliards d'humains sur Terre. Et tout leur cerveau, vous visualisez ça comme un énorme champ de chou-fleurs. Aligné. Et vous allez vers chaque chou-fleur, ou chou tout simplement, vous écoutez, il y a un dialogue, il y a une vie qui est dedans. Vous visualisez le 7 milliards de cerveaux en train de penser sans cesse. Vous arrêtez à côté d'un, vous faites toc toc toc, puis vous demandez, réveillez-vous, regardez, tout le monde fait pareil, arrêtez-vous. On n'arrivera pas. Ils continueront à entrer dans leurs rêves, continuer à rêver, continuer à penser. Et après, on peut entrer à l'intérieur et suggérer quelque chose pour sortir, si on veut. Et souvent, si on n'a pas cette mission en tant que maître, et il est possible qu'on fait des scénarios parallèles, se croisent, on tisse des liens. Et je projette quelque chose et l'autre projette quelque chose. Et puis quelquefois ça va ensemble, quelquefois ça ne va pas ensemble. Et quand ça va ensemble, on dit on est ensemble, on est bien. Et puis quand on ne se rencontre pas, on se diverge. Et les scénarios ne correspondent plus et puis on s'arrête de se voir et et la rupture. Vous comprenez ce fonctionnement? Tout ça, c'est prana. Et donc, entrer dans le maîtrise du prana, c'est comme si vous êtes en train d'ébranler même le fondement de l'être. Fondement même de la vie. Celui qui pratique le pranayama, petit à petit, il va comprendre que tout ce qu'il avait pris comme vérité, c'est que des illusions, c'est que des affirmations, auto-affirmations. Et là, ça va troubler. Il va même comprendre que tout ce qu'il avait dit n'était pas ses propres paroles. Le pranayama qui va nous faire comprendre notre propre fonctionnement et on se regarde, je me mets à côté de moi et je me regarde et je me dis, c'est, mon Dieu, c'était un robot. Et le souci, c'est pour ça qu'il faut aller doucement. Une fois qu'on a compris ça, on ne peut plus faire de marche arrière. Pas question de redevenir un automate. Pas question de retourner dans le cage qu'on nous a fabriqué. On est de plus en plus inadapté, inapte à la vie sociétale qu'on nous a imposée. On devient automatiquement marginal. On ne veut plus entrer dans ce truc-là. Alors, si ça se fait d'une façon accompagnée, progressive, ça va. Mais si vous faites, vous improvisez par vous-même, que vous commencez à comprendre qu'en fait, c'est, tout ça, c'est des bidons, tout ce qu'on nous avait dit. Et là, à la place, on rejette quelque chose, mais on n'a rien à la place pour remplacer. On ne sait pas gérer ça. C'est pour ça que dans le Yoga Sutra, il y a le quatrième chapitre, on appelle le Kaivalya Yoga. C'est écrit pour gérer des expériences. Donc le Yoga Sutra a quatre chapitres. Le premier chapitre parle de but. Deuxième chapitre, le chemin, comment atteindre. Et le troisième chapitre, Vipudipada, parle de toutes les expériences qu'on peut vivre au cours du développement. Et puis le quatrième, c'est comment rester quand même humain. Comment gérer ça. C'est pour ça que travailler, investir beaucoup sur, beaucoup ça veut dire à fond, sur le prana, souvent si on n'est pas accompagné, c'est-à-dire on commence à avoir des expériences qu'on n'a pas un référent à côté qui dit oui, c'est rien, c'est, ça va passer. Et là, c'est rassurant. Sinon, ça nous a arrivé, ça m'a arrivé. Beaucoup de gens qui me disent, je vois bleu, je vois rouge, je vois voler, je quittais de mon corps, je quittais mon corps et sorti du corps, on revient. Et il y a tellement d'expériences qui peuvent arriver quelquefois, on ne peut même pas partager avec quelqu'un. Et si on partage quelquefois, on a peur que l'autre qui va nous prendre pour un fou, quoi. Donc en fait, les cerveaux fabriquent à peu près une réalité raisonnable pour soi. C'est-à-dire chaque individu avec les cinq sens, tous les stimuli, toutes les énergies, des ondes qui arrivent, son cerveau fabrique un monde. En fait, vous pensez que vous voyez un monde, mais vous voyez uniquement le monde fabriqué par votre cerveau. Vous voyez que les réalités données par votre propre cerveau. Vous n'avez absolument aucune possibilité d'avoir une vision directe. Donc on a un assistant qui nous dit la vérité, mais cet assistant, il ne dit pas la vérité. On est dedans il est l'intermédiaire, il dit, bah, à l'extérieur, il se passe des choses comme ça, et il nous dit, et puis on connaît que ça. C'est-à-dire un roi, il est obligé de croire ce que les ministres disent. Et donc le vrai roi, il doit toujours soupçonner des erreurs qui peuvent arriver. Donc en fait, c'est comme ça, tous les pays sont gérés comme ça. Il y a un roi, il y a des ministres. En fait, c'est le ministre quelquefois qui gère. Donc par exemple, entre l'Angleterre et la France, c'est comme ça la grande différence. C'est présidentiel ou... C'est quelquefois on dit c'est le président qui décide, mais c'est pas ça, c'est pas vrai, c'est le ministre qui dit. C'est en fait on a une confusion de place à l'intérieur de nous. Cette confusion d'autorité à l'intérieur de nous se reflète aussi dans la société. Qui est le maître? Mais c'est moi le maître, le soi qui est le maître, mais en fait toutes les décisions sont prises par l'intellect qui n'est pas le maître. Mental, c'est la partie visible. Alors, donc la question, si vous voulez approfondir, et je vous invite d'étudier les différentes vrittis. Il y a 5 vrittis, mais pour ceux qui ne connaissent pas du tout, qui n'a pas du tout ouvert à ça, je vous invite de regarder ça, les vrittis, il y a 5 vrittis, les perceptions directes et indirectes, l'hypothèse, hypothèse, c'est ça, déduction, voilà, le mot juste c'est déduction. Et tout ça c'est une première partie, c'est-à-dire je vois les choses, où je sais que derrière ce mur il y a autre chose, et puis il y a des témoignages. Mais après, il y a énormément de perceptions erronées et l'agitation intérieure, les pensées, la mémoire et le sommeil. Tout ça, c'est des vrittis. Hein. Donc, et si la conscience est considérée comme un espace d'eau, un étang d'eau, et que vous jetez un caillou et que ça donne des cercles, des vagues, ça c'est une façon d'expliquer les sensations sensorielles qui viennent de tous les côtés. Ça peut être sensoriel ou ça peut être provoqué par nous-mêmes. Donc j'ai pas vu une pomme, mais j'imagine une pomme. Mais la différence, quelle est la différence? Un qui est objectif, l'autre est subjectif. Un qui est dans le plan de réalité, l'autre c'est imaginaire. Mais je peux avoir une pensée négative, mais ça peut troubler la paix intérieure. Je peux rêver d'une pomme, mais même si dans mon rêve que je mange, la pomme que j'ai rêvé, ça ne va pas rassasier. C'est-à-dire, les réalités extérieures, réalités intérieures, sont deux réalités, mais quand même, ces deux réalités peuvent perturber notre paix intérieure. Et donc, il est nécessaire d'apaiser les vrittis. Ça, c'est le yoga. Donc, les fluctuations mentales est provoquée par la mémoire, est décidée par l'intellect, et subie. Qui subit? C'est l'ego qui subit. En fait, l'ego, en ce moment, on a cette confusion. Moi, je et l'ego, comme ces deux sont associés, indistinguables. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va séparer les masques et le vrai visage. Une fois qu'on a compris, le masque est constitué des émotions, des colères, la peur, le passé, l'impression du corps, notre présent, tout ça. On arrive à extraire notre véritable nature à travers la méditation. C'est pour ça qu'on pratique la méditation. On s'assoit, on arrête. toutes les actions. Là, on arrive à distiller un petit peu notre véritable nature. Se séparer, on arrive à se séparer des émotions, des pensées, des sensations sensorielles. On arrive à voir quelque chose qui n'est pas sensation sensorielle, mais tout le temps présent, qui est notre propre essence. À cet endroit-là, si vous me suivez, il y a la paix. À cet endroit-là, même s'il y a énormément de fluctuations de colère, de tristesse, de la peur, de tout ça, et cet endroit-là, nous sommes inébranlables. Et voir ça, au moins une fraction de seconde de notre vie, c'est un très grand soulagement. C'est comme si vous avez découvert dans votre maison un espace, un jardin privé. Vous ne savez pas que ça existait. Un jour, vous ouvrez une porte. J'avais ça. Mais une fois que vous savez qu'il y a un endroit pour vous, que pour vous, tranquille, vous pouvez, vous n'êtes pas obligé d'aller dans ce jardin secret intérieur, vous n'êtes pas obligé d'aller là. Mais en sachant qu'il y a un endroit, c'est déjà, ça fait du bien pour vivre le reste de l'espace. Je fais un résumé, si vous voulez, en quelques mots. Première chose, le plus important, c'est comprendre celui qui vous comprend. Comprendre cet équipement humain. Comprendre ça. C'est dans des différents découpages. Donc on étudie l'anatomie et la physiologie, on étudie la psychologie, on étudie les cellules, on étudie l'ADN, on étudie toutes les chimies du corps, tout ça, il y a énormément d'études proposées, mais ça c'est dans le bouquin. Mais observez par vous-même le corps. Et par cette observation, il y a un changement qui va se passer dans le corps. Parce que quand je veux regarder ça, et moi, et l'objet, il y a une séparation. En ce moment, je suis le corps. Et donc, je m'assois et j'observe mon corps. Et donc, je me sépare, je deviens observateur de mon corps. Et après, je me sépare de mon prana, mon énergie vitale. J'observe le prana et je suis autre chose que le prana. Et qu'est-ce que c'est autre chose? C'est la pensée. Donc j'observe les pensées et je deviens encore plus subtil et j'observe mes pensées. Et là, j'observe, celui qui observe les pensées, c'est l'intellect. Les mouvements de l'intellect. Et qui observe les mouvements le plus subtil de l'intellect, c'est l'ego qui regarde ça. Et après, j'observe l'ego. Et là, je suis à l'extérieur des champs de l'ego. Je vous avais dit 5 étapes. Annamaya kosha, pranamaya kosha, manomaya kosha, et vijnanamaya kosha, anandamaya kosha. Annamaya kosha, c'est le corps physique. Pranamaya kosha, c'est l'énergie de la vie, et puis la pensée, l'intellect et l'ego. C'est quand ces 5 enveloppes sont débarrassées et on est nous-mêmes, la conscience pure, sans frontières, sans début, sans fin, sans tâche, sans agitation, toujours heureux. Il y a énormément de littérature dans en sanskrit, ici en Inde, dans la description de cet espace evam nityam nimalamatalam sarvade sakshibodam. Bon, c'est sanskrit. Bon, on a appris tout ça par cœur. Et c'est vraiment délicieux de se plonger dans cette littérature où on peut encore, encore et encore apprécier notre véritable nature. C'est le plus grand de pensée positive, c'est de comprendre enfin ce que nous sommes vraiment. Dans le monde, quand vous rencontrez quelqu'un, il dit « ça va, tu vas bien ?» Mais on dirait que tu es un peu fatigué. Et nous vivons dans ce monde-là, la description de l'extérieur et l'identification au corps. Et c'est très dur de se réduire à la corporalité dans le regard de l'autre. Donc si on veut sortir de toutes les agitations, hein, ces deux voies, yogique et ayurvédique, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai donné l'importance dans ce centre pour ces deux approches complémentaires. Peut-être on pratique le yoga, mais si on ne nettoie pas à côté, si on n'a pas une hygiène de vie à côté, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher vraiment bien. C'est bien de passer le karcher. Et après, un peu passer briller. Oui, pour briller là. Lustrant. Ouais, passer les lustres.
Moi j'ai une question. Par rapport à Maya, un rêve de ça.